Ça pourrait faire le titre d'une chanson. Les histoires d'héritage finissent mal en général. Une chanson qui raconterait l'histoire de Josiane, 85 ans, l'ancienne institutrice du village d'Espezel dans l'Aude. Josiane est passée à deux reprises à côté de la mort. D'abord, les freins de sa voiture ont été sectionnés, puis une bombe artisanale a été découverte dans son jardin. Qui en veut à cet octogénaire? Il y a quelques semaines, sa belle-fille et son mari ont été mis en examen. L'argent rend-il fou? Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier.
Bonjour.
Vous êtes journaliste police-justice à BFMTV.com et avec vous nous allons revenir sur cette affaire digne d'un scénario qui a choqué tout un petit village. D'abord donc revenons sur cette histoire qui débute il y a plus de 50 ans.
C'est une histoire comme on n'en connaît que dans les petits villages. Josiane, vous l'avez dit, c'est l'institutrice du village. Elle a passé sa vie à apprendre aux enfants. Tout le monde la connaît, tout le monde l'apprécie pour ça. Josiane, elle est aussi connue pour avoir été la maîtresse de l'ancien médecin, l'ancien maire du village, sa maîtresse pendant 56 ans. Tout le monde était au courant, y compris la famille du monsieur. Et les proches de Josiane nous ont parlé d'un réel amour entre les deux. Elle est toujours restée dans l'ombre, elle l'a toujours accepté. Et en 2015, il y a moins de 10 ans, elle s'installe chez le vieux monsieur. Il est alors âgé de 96 ans. Son épouse officielle est décédée depuis quelques années. Et Josiane va s'installer chez lui puisqu'il a la santé déclinante et donc elle va s'occuper de lui. Mais ce qui va déclencher le conflit familial avec les deux filles du médecin, c'est le mariage de leur père avec Josiane. On est en octobre 2020. L'ancien médecin est alors âgé de 101 ans. Et il va épouser Josiane en tout petit comité à son domicile. La femme de ménage, une secrétaire de la mairie font office de témoin. Les proches de Josiane sont là, mais pas les deux filles du marié. Et donc depuis cette date, depuis ce mariage, les deux filles de l'ancien maire considèrent que Josiane a organisé toute cette manœuvre pour mettre la main sur l'héritage.
Alors c'est à partir de là que s'engage une bataille donc, entre la vieille dame et les deux filles de l'ancien médecin d'Espezel.
En juin 2021, donc l'ancien maire décède, il est alors âgé de 102 ans. L'héritage donc est réparti, les deux filles vont obtenir un quart de cette fortune, on parle quand même de plusieurs centaines milliers d'euros, mais elles vont découvrir que Josiane, qui a quand même passé un demi-siècle aux côtés de ce monsieur qui n'a pas eu d'enfant, qui vraiment a vécu dans l'ombre quasiment toute sa vie, a été nommée bénéficiaire de l'assurance vie du défunt, une assurance vie qui s'élève à 250 000 euros. Et là, les deux filles vont lancer une procédure pour tenter de récupérer cette somme. Elles vont contester l'héritage, elles estiment qu'il y a eu un abus de faiblesse, mais un conciliateur va leur donner tort, estimant que l'argent revient de droit à Josiane.
Et c'est là que la justice a des soupçons sur l'une des filles du médecin et son mari. Ils auraient choisi en fait la manière forte pour faire renoncer Josiane ou tout du moins lui faire peur.
On est en juillet 2023, le 9 précisément. La vieille dame, elle est alors âgée, Josiane, de 85 ans. Elle va se rendre compte que quelqu'un a pénétré dans sa propriété d'Espezel, que le grillage a été sectionné. Elle retrouve une tenaille au sol. Heureusement, elle n'y touche pas parce que cette tenaille, en fait, les gendarmes vont se rendre compte qu'elle est reliée via un fil de fer à un système de mise à feu, lui-même mis dans une boîte en métal qui est enterrée dans le jardin de Josiane. Autrement dit, on parle d'une bombe artisanale qui aurait pu causer de graves dégâts. Donc une enquête va être ouverte. Les gendarmes ils vont demander à Josiane et à ses proches d'être discrets sur cette découverte. Ils vont demander à ce qu'on en parle pas aux autres gens du village pour ne pas éveiller de soupçons. Et ils vont travailler de manière assez classique sur le passé de Josiane et aussi sur ses proches. Et là, ils vont découvrir que Josiane, elle a déjà reçu deux lettres de menaces. Une en septembre 2021, dans laquelle le corbeau laissait aller sa haine sans elle, l'insultait. Et une autre envoyée en avril 2023, donc deux mois avant la découverte de la bombe. Et là, le corbeau demande à Josiane de verser une rançon de 500 000 euros en échange, dit-il, de son silence sur ce présumé mariage fictif avec l'ancien maire. Les gendarmes se rendent compte aussi que Josiane, elle a déjà déposé une plainte cette fois-ci. C'est parce que les câbles de frein de son véhicule ont été sectionnés, que son véhicule donc, a été saboté. On était en 2020. À cette époque, l'enquête, elle n'aboutit pas. Il n'y a pas de suspect interpellé. Mais les gendarmes avaient déjà des doutes sur l'une des filles de l'ancien maire et le mari de cette dernière, parce qu'ils habitaient la maison de l'ancien maire et de Josiane à cette époque, et donc ils avaient accès au véhicule, et donc ils auraient pu sectionner les freins, mais il n'y avait que des soupçons, pas d'éléments matériels. Donc en 2023, quand on découvre cette bombe, les gendarmes mettent tous les proches sur écoute, et là, ils vont entendre Isabelle et Georges, donc la fille et le gendre de l'ancien maire, s'inquiéter de leur prochaine convocation par les gendarmes en tant que témoin dans cette enquête. On entend aussi le gendre qualifier Josiane de diable, évoquer le système mafieux qu'elle aurait mis en place pour détourner l'héritage. C'est des termes en fait qu'on retrouve dans les lettres anonymes envoyées à Josiane. Ils vont aussi travailler, les gendarmes, sur la géolocalisation du téléphone portable du gendre. Ils vont se rendre compte qu'il était à une vingtaine de kilomètres le jour où la bombe a été déposée. Il se trouvait dans sa maison secondaire, il était seul, ce qui est très inhabituel pour ce monsieur de 68 ans. Et surtout, la nuit où la bombe a pu être déposée, il avait éteint son téléphone portable. Là aussi, quelque chose de très inhabituel. Et donc, avec tous ces éléments, ils vont placer le gendre et la belle-fille en garde à vue. Et là, ils vont demander au gendre d'écrire le nom de famille de Josiane. Et là, il va faire une faute d'orthographe, la même que le corbeau. Et donc, avec tous ces éléments, un juge d'instruction va mettre en examen Isabelle et Georges pour tentative d'assassinat.
Et alors, où en est-on dans ce dossier ?
Donc, ils ont été mis en examen il y a seulement quelques semaines. Le couple conteste catégoriquement ce qu'on leur reproche. Ils restent évidemment présumés innocents. On parle d'un couple de retraités de 68 et 69 ans. Lui, on nous dit qu'il est, c'est un ancien miroitier. On nous parle d'un brave gars qui, évidemment, n'a pas de compétences pour fabriquer des bombes. Isabelle, c'est un peu la grand-mère qui fait des gâteaux pour ses petits-enfants. Donc, évidemment, pas le profil de meurtrier. Et l'enquête, là, elle va se poursuivre. Alors, avec des analyses graphologiques, on va comparer l'écriture de Isabelle et de Georges avec les lettres de menace. On va faire des analyses sur les empreintes retrouvées sur la bombe, des analyses sur les téléphones portables, les ordinateurs. Et les experts vont aussi devoir se prononcer sur le caractère létal de la bombe artisanale. On nous dit de sources proches que l'enquête, elle pourrait avancer très vite et éventuellement qu'il pourrait y avoir un procès assez rapidement. Cette histoire d'Espenzel, elle est hors norme par la violence, par les faits qui entourent cette histoire d'héritage. Patrick Avran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous êtes psychanalyste. Vous êtes aussi l'auteur de Les faits divers, une psychanalyse héritée. Une histoire de famille et aussi petite psychanalyse de l'argent. Avec vous, nous allons tenter de comprendre pourquoi tant d'affaires d'héritage finissent mal. Cette affaire d'Espenzel, donc je le disais, elle est hors norme, elle est frappante à la fois par l'âge des protagonistes. On parle d'un couple de retraités de 68 et 69 ans qui ont été mis en examen, par les modes opératoires aussi utilisés. Et en même temps, on sait que les conflits familiaux en raison de l'héritage sont loin d'être rares. Comment on peut expliquer, Patrick Avran, que cette question de l'argent peut susciter des jalousies, peut soulever des rancœurs et je dirais même peut parfois rendre fou?
Les histoires d'héritage, ce n'est pas uniquement des questions d'argent. On pourrait dire que ce n'est même pas des questions d'argent. C'est quelque chose de plus profond. C'est-à-dire qu'au moment de l'héritage, se règle tout ce qui n'a pas été réglé dans l'enfance. C'est-à-dire ce qui fonde les relations entre les personnes quand il y a du non-dit, quand il y a de l'envie, quand il y a quelque chose qui n'a pas été réglé au moment de l'enfance et de l'adolescence. C'est très ancien, les histoires d'héritage. Ça ressort à ce moment-là. Qu'est-ce qui ressort à ce moment-là ? C'est l'affaire classique, c'est-à-dire la jalousie. Il n'a pas eu ce à quoi j'ai droit. Ce petit bébé qui est né après moi et qui a pris ma maman, Eh bien, je lui en veux encore. Donc, c'est pas uniquement une histoire d'argent, c'est une histoire d'objets aussi. On voit que dans les héritages, parfois, on se déchire pour des choses qui apparaissent sans valeur, mais qui ont simplement une valeur affective extrêmement grande pour les uns et pour les autres.
Donc, à travers l'héritage, vous le dites, ce n'est pas qu'une question d'histoire. Il y a surtout donc une histoire de famille, de liens familiaux. L'héritage, finalement, ça va être le moment révélateur de la structure, de l'organisation de cette famille ?
Ça va être le moment révélateur de l'organisation de cette famille et surtout de l'organisation des silences de cette famille. C'est au moment de l'héritage, c'est ce qui n'a pas été dit qui ressort à ce moment-là et qui ressort parfois de façon violente. Les silences de cette famille, c'est faire semblant que tout le monde s'aime alors qu'il y a déjà des conflits. Et on pourrait dire que on n'a pas besoin de s'aimer sans arrêt. C'est bien aussi d'avoir quelques conflits, d'être en désaccord. Mais quand c'est recouvert par une chape de plomb, à ce moment-là, les désaccords deviennent quelque chose qui peut être extrêmement violent et qui ressurgit justement là où les personnes qui sont capables de dire « moi je t'aime autant que toi que ton frère » ne sont plus là pour le dire, tout simplement parce qu'ils sont décédés.
Et pourquoi, si certaines personnes arrivent à parler pendant l'héritage, à échanger pendant l'héritage, pourquoi certaines n'arrivent pas et pourquoi certaines personnes, elles, basculent dans cette violence quand il y a un héritage ?
Il est difficile de dire à chaque fois pourquoi. Ce que l'on peut constater, c'est qu'effectivement, quand il y a une bascule, elle n'est pas instantanée, c'est-à-dire qu'elle était déjà là. Elle était déjà là dans quelque chose qui était sous-jacent et qui surgit à ce moment-là parce qu'il y a à la fois quelque chose de concret, il faut se partager réellement des biens, de l'argent, une maison, des bibelots, des meubles, et puis aussi parce que la personne dont on se partage les biens n'est plus là. C'est comme si en même temps on se partageait la personne, et ça c'est très très difficile de pouvoir pour certains accepter que leur mère ou leur père ne soient pas uniquement leur mère et leur père à eux, mais qu'ils sont aussi le mère et le père de leurs frères et sœurs.
Et c'est d'autant plus dur quand la personne arrive plus tard dans la famille, quand il y a une nouvelle belle-mère par exemple, ou des beaux-enfants.
Chaque situation est particulière. C'est effectivement plus difficile parce qu'à certains moments, certains peuvent considérer que les uns sont plus légitimes que les autres. Or, en fait, on pourrait dire que tous les enfants sont légitimes de leurs parents. Mais quand il y a eu un premier mariage et qu'il y a un second mariage ou des enfants qui, comme on dit, sont d'un deuxième lit, les premiers peuvent se sentir dépossédés. Mais ça se fait à partir du moment où, justement, ça n'a pas été énoncé. Au moment où ça s'est passé, un couple a le droit de se séparer. Il n'est pas nécessairement à ce moment-là obligatoire qu'il soit en conflit. Mais il faut que ça puisse être dit aussi aux enfants. C'est pas parce que je ne vis plus avec ta mère que je suis toujours ton père. Ou c'est pas parce que je ne vis plus avec ton père que je ne suis plus ta mère. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui, quand il y a du non-dit, ressort au moment de l'héritage et provoque des conflits.
Vous dites, vous parlez de partage de la personne. On sait que le moment de l'héritage, le moment de la succession, c'est parfois la première fois où les personnes sont confrontées à la loi et à la rigueur des textes, à la rigueur des textes qui excluent tout sentiment, on le sait. Est-ce que c'est ça aussi qui fait qu'il n'y ait pas d'affect, de sentiment dans les textes de loi qui rend encore plus compliqué d'accepter une succession, un partage ?
Effectivement, il y a une rigueur dans les textes. Les notaires expliquent, appliquent, mais ils ne peuvent pas tenir compte, et ils n'ont pas à tenir compte, et c'est beaucoup mieux comme cela, de, éventuellement, l'enfant préféré de la mère ou du père. Parce que, à ce moment-là, il y aurait quelque chose qui ne tiendrait pas compte de la réalité. En France, tous les enfants ont les mêmes droits. C'est pas la même chose dans tous les pays du monde. Et on pourrait dire que les notaires, je dirais, ils appliquent la loi et après, eh bien, les héritiers, ils peuvent éventuellement aller consulter pour comprendre ce que ça leur fait pour eux, cette application de la loi. Il faut quand même dire que dans la plupart du temps, ça se passe bien. Ça se passe bien à partir du moment où précisément les choses ont été préparées et où il n'y a pas nécessairement des conflits présents dans toutes les familles avant la disparition des parents.
Oui, justement, vous dites dans la plupart des temps, du temps, ça se passe bien. Est-ce qu'il faut préparer cet héritage, cette succession pendant le vivant de la personne, des parents? Est-ce qu'il faut préparer pour que ça se passe bien?
Je pense que ça dépend de chaque situation. Préparer, ça ne veut pas dire nécessairement préparer devant un notaire. Ça peut tout simplement aussi dire en parler. Sans fausse pudeur, hein. Et à ce moment-là, voir ce que les uns et les autres préféreraient ou éventuellement préparer un peu plus concrètement. Ce qui est important, c'est que ce qui soit préparé, ce soit une parole. Hein. Ce soit une parole qui permette de dire à chacun, bah, écoute, je vous aime autant les uns que les autres. Peut-être que vous pouvez vous entendre comment on va répartir telle ou telle chose, est-ce que toi tu préfères ceci ou est-ce que tu préfères cela? En général, ce qui se passe, c'est que les bijoux vont aux filles et les autres choses aux garçons. Mais tout ça, ça peut être dit avant. C'est pas nécessairement une préparation formelle, sauf quand il y a des gros héritages. Alors là, il vaut le mieux parce que les conflits sont d'autant plus importants.
Bon, alors on va envoyer un message à toutes les familles. Parlez-vous. Un grand merci, Patrick Avran, d'avoir été avec nous pour ce décryptage. Affaire suivante, le podcast inédit, c'est bien sûr à retrouver sur le site bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.